France Inter.
Hervé Poirier, co-rédacteur en chef du magazine Epsilon, voulait nous parler, Hervé, de l'exploration d'une grotte en Israël qui nous raconte une nouvelle facette de la relation entre nous, les sapiens, et notre cousin Néandertal. Expliquez-nous.
Donc la grotte de Tinsmet, elle se situe à mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv, à la jonction des hauts plateaux de Judée et de la plaine côtière méditerranéenne. Bon, elle a été découverte dans les années 40, mais elle fait l'objet de fouilles approfondies que depuis 2017. Bon, la fouille est difficile, hein, les sédiments sont tous cimentés, c'est comme du béton, mais cela vaut le coup d'explorer. Les premiers résultats viennent d'être publiés par les archéologues et ils démontrent que la grotte a en fait été occupée par des humains il y a 100 000 ans. Ils ont découvert des traces de cendres de bois, des dizaines de silex savamment taillés, des milliers de fragments d'ocre, des restes d'aurochs, d'équidés, de gazelles, de sangliers, même une phalange de rhinocéros, et surtout, les squelettes de 5 humains, dont 2 quasi complets en position fœtale, signe qu'ils ont été enterrés. Donc c'est déjà très émouvant, avec 4 autres sépultures de la région datant de la même époque, dont une qui se trouve seulement à 10 km de là. Voilà le plus vieux cimetière humain jamais découvert.
Et qui est enterré là, alors, Hervé ?
Eh bien, on ne sait pas vraiment. Les analyses sont en cours. On sait qu'il y a entre 130 000 et 80 000 ans, il y avait 3 espèces humaines qui cohabitaient dans cette région du Levant. Sur les autres sites sont enterrés des pré-néandertaliens qui étaient sortis d'Afrique il y a des centaines de milliers d'années. Il y a aussi des néandertaliens qui étaient revenus dans la région depuis l'ouest de l'Eurasie et des sapiens qui arrivaient d'Afrique. Sachant que certains corps semblent hybrides. Mais bon, l'essentiel, en fait, n'est pas là, selon les chercheurs. À travers une analyse méticuleuse qui a mobilisé des experts du monde entier, ils se sont concentrés sur ce que Tinsmet raconte des pratiques, des techniques, des savoirs, des symboles mobilisés par les humains qui l'ont occupé. Et ils ont démontré que ces sépultures relèvent exactement de la même tradition que les 4 autres sites. Les pré-néandertaliens, les néandertaliens et les sapiens, ils avaient exactement la même façon de tailler des silex, la même façon d'enterrer les morts, avec la présence des mêmes animaux, la même omniprésence de l'ocre pour décorer les corps. Bref, au Levant, il y a 100 000 ans, tous les humains partageaient la même culture.
Et donc, les échanges auraient été beaucoup plus riches que ce que l'on pensait, Hervé. Hein ?
Oui, alors pendant longtemps, il a été pour nous, humains modernes, très difficile de penser que la relation entre sapiens et néandertal ait pu être autre que conflictuelle. Depuis 15 ans, grâce aux analyses génétiques, on sait que les deux espèces se sont en fait un petit peu hybridées. Vous avez entre 1 et 4% de sapiens, de néandertaliens en vous.
Mais oui.
Mais les enseignements de la grotte de Tinsmet vont vraiment plus loin. Selon Israël Herskovitz de l'université Tel Aviv, qui a co-dirigé ses recherches, cela dépasse l'échange, c'est un vrai mélange. Ces humains si différents coexistaient en fait pacifiquement, formant même peut-être un seul groupe, une seule même communauté. C'est en fait très difficile pour nous d'imaginer qu'à l'époque, la différence n'était pas un obstacle au partage. Et la leçon est d'autant plus poignante alors que la violence embrase aujourd'hui la région.
Merci beaucoup Hervé Poirier. Je signale que le nouveau numéro d'Epsilon, il est sorti déjà dans les kiosques là ?
Il sort demain.
Il sort demain avec une drôle de couverture drôlement ambitieuse. Elle est blanche, on voit dessus. Il était neutre, ouvert, universel. Est-ce la fin d'Internet ? Ce sera demain pour en savoir plus. Merci beaucoup Hervé Poirier, la une d'Epsilon. On termine comme tous les jours avec vos messages. C'est l'heure du répondeur.
Bonjour la Terre au carré, Greg de l'Aveyron. Je vous appelle pour réagir sur la chronique de Camille à propos des bécassines. Déjà, merci de mettre à lumière une espèce magnifique et si peu connue du grand public. Camille, tu fais apparaître l'impact de la chasse que je ne nie pas, mais quel est l'impact de la destruction des zones humides depuis 70 ans ? Une convergence des luttes sur le vrai problème serait à mon avis plus efficace. Voilà, bonne émission à vous.
Bonjour, c'est Lise de Montpellier. Alors je remercie tous ceux qui font vivre donc l'émission La Terre au Carré. J'ai lu qu'il y avait 800 000 auditeurs et j'espère que sur les 800 000, il y en a au moins 1000 qui ont tout simplement envoyé un mail au ministère de la Transition écologique au sujet des bécassines du Doubs et des bécassines du Jura. Bon, peut-être que ça sert à rien, mais 1000, ça servira peut-être quand même à quelque chose. Au revoir.
Bonjour, Frédéric de Mon Réseau, frontière espagnole, Haute-Garonne. Là, je viens juste d'entendre une dame du répondeur qui dit que quand on mange bio, c'est mieux. On est plus rassasié. Un petit doute là, hein. Attention quand même, il faut aller au revoir.
Bonjour,
Bonjour, Marie-Christine de Carré-les-Tombes, un très joli petit village dans le cœur du Morvan. Ça fait des mois que le collectif Ligne à défendre se mobilise pour demander un service public de qualité sur les lignes TER, en particulier qui relient Corbigny, Avallon, Clamecy, à Paris. Donc il y a des pétitions, des manifestations, il y a beaucoup d'engagement de citoyens, de citoyennes. Et il y a bientôt une manifestation qui s'appelle « Cours pour garder ta ligne ». Une course en relais au départ de la gare de Corbigny jusqu'à Paris-Bercy pour dire non à la fermeture des lignes. Donc le départ le 1er mai à 9h30 de la gare de Corbigny. Merci pour votre émission. Au revoir.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Jérôme de Lyon à l'appareil. J'ai écouté le débat du 7-10 consacré aux ZFE avec l'inénarrable Alexandre Jardin qui a réalisé un magnifique numéro de démagogie. On enlève leur dignité aux gens en les empêchant de rouler en centre-ville. Bigre ! Les dérogations, qui sont pourtant une bonne solution pour les ZFE, sont considérées comme des passe-gueux, rien que ça. Quelle est la solution pour Alexandre Jardin ? Eh bien tout simplement, abroger les ZFE. Tout remettre à plat parce que, vous comprenez, faut pas aller trop vite, faut pas brusquer les pauvres. Pendant ce temps-là, les 40 000 morts par an, qui sont principalement les plus précaires, n'empêchent pas Alexandre Jardin de dormir. Bonne journée, la Terre au Carré.
Bonjour, Gilles, en Vendée. Je voulais vous alerter sur un projet de vague artificielle sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Le site retenu est celui de l'aquarium, soit à 400 mètres de l'océan. Malheureusement, le permis de construire a déjà été délivré. Les porteurs du projet et les autorités ont fait preuve d'une extrême discrétion. Pourtant, à les écouter, ce projet a tous les éléments pour faire entrer dans le rang les têtes qui dépasseraient. Il est présenté comme étant plus vert que vert, bon pour le développement économique et touristique, créateur d'emplois et légitime au nom de la liberté d'entreprendre sur un terrain privé. En fait, il est bon pour le surtourisme et ses dérives, pour les intérêts financiers de quelques-uns bénéficiant d'appuis politiques haut placés, et c'est une aberration environnementale. Nous sommes en démocratie et nous ne sommes pas des sujets. Aussi, je vous invite, et notamment les habitants du territoire, à vous informer auprès de la mairie sur ce vertueux projet. Vous pourrez, par exemple, les interroger sur la fréquentation prévue et le nombre de véhicules que cela va engendrer. Merci, la Terre au Carré.
Mais que vous êtes rabat-joie, une jolie vague artificielle à l'eau de mer en plus. Les travaux d'aménagement devraient donc commencer en juin à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. On leur fait un petit peu de pub avant l'ouverture prévue en 2027. Il y a de la lutte dans l'air. Merci pour vos messages 01 56 40 45 45.